Gameblogueuses, gameblogueurs, salut à toutes et à tous, bienvenue dans le nouveau podcast de la rédaction de Gameblog. Avec moi aujourd'hui, nous avons Rudy.
Salut.
Et oui, nous avons Camille.
Salut.
Et nous avons Johnny One. Et oui, j'ai fait une feinte de regard, si vous êtes premium, vous avez pu vérifier. Je regardais Camille en disant Rudy, c'est complètement con, mais c'était moi. Aujourd'hui, nous n'avons pas un thème, non pas deux thèmes, non pas trois thèmes, non pas quatre thèmes, mais cinq thèmes, en fait, cinq jeux dont nous allons vous parler, qui sont passés par la case test et dont nous avons très, très envie de vous parler. Je vous fais le sommaire immédiatement. On va commencer avec Overwatch. Alors Overwatch, est-ce que c'était de la overhype pour du over rien ou au contraire du overjeu? Eh bien Rudy va nous dire juste après. On va parler aussi de l'extension, peut-être l'extension de l'année, The Witcher 3 Blood and Wine, qui est la dernière aventure de Geralt de Rive. Eh bien on va en parler aussi juste après et dire à quel point on a aimé. Nous finirons la dernière ligne droite avec deux jeux PC, Stellaris et Total War Warhammer. Évidemment pour les PCistes pur jus, Camille nous en parle juste après et on terminera avec un petit jeu français qu'on aime bien parce que ça nous rappelle un vieux jeu qui s'appelle Power Stone, ça s'appelle Last Fight, c'est fait par Piranha King et Johnny One a plutôt apprécié, il nous dit ça tout à l'heure aussi. Mais avant ça, comme d'habitude, vous êtes au courant, vous savez comment ça se passe, on fait d'abord le win de la semaine. Et le win de la semaine, Rudy ?
Oui, effectivement, le win de la semaine aujourd'hui, c'est Monument Valley. Donc Monument Valley, c'est
Pourquoi
c'est ce petit jeu en fait fait par les développeurs de Stu. Mm-hmm. Et parce que finalement les chiffres sont tombés, il a été téléchargé plus de 26 millions de fois.
Mais c'est énorme.
Et oui.
Il date de 2014, c'est ça ?
Il date de 2014. Ouais. Et en fait, pour beaucoup en fait l'ont téléchargé une fois qu'ils ont
vu. Johnny est en train de le télécharger là tout de suite.
Non, trop cher, 3 euros.
Trop cher.
Oh là là.
Non, mais ce qu'il faut dire, c'est vrai que la
j'étais déjà tombé dessus. Regarde, il est dans ma liste de favoris. Hein,
d'accord.
Je crois. C'est ça. Ah bah très bien. Non, mais il a été surtout en fait les revenus ont été surtout générés sur les DLC qui ont été vendus parce que le jeu a été souvent donné, offert gratuitement, notamment aux utilisateurs d'iOS ou sinon un petit peu en promo pour 0,99 centimes. Donc c'est vraiment sympathique de voir un excellent jeu comme ça, un excellent jeu sur mobile. Avoir été téléchargé autant de fois.
D'accord.
C'est parfait.
Et donc oui, il y a eu le coup de boost d'House of Cards. Ils ont partagé beaucoup d'autres chiffres, je crois. Ils ont donné carrément les moments où justement le fait que ce soit gratuit, ça boostait les ventes,
etc. Exactement. C'est surtout sur la deuxième année en plus où le titre a vu ses ventes complètement boostées. Et ensuite, ça a continué de cette manière-là, avec notamment souvent dans des Humble Bundles, on a pu l'avoir et tout grâce à toutes ces promotions-là. Mais c'est assez impressionnant pour le coup.
Très bien, et écoute, ça fait plaisir de voir que des jeux comme celui-ci arrivent.
Ça me fait penser un peu à Echo Chrome.
Oui.
Au niveau visuel.
Oui, ça, il y a de ça.
Au niveau visuel uniquement.
Ok. D'accord.
Non, mais il y a quelques mécaniques de jeu aussi qui y ressemblent, évidemment, les trucs, les tableaux de Escher où tu confonds un petit peu les perspectives. Ça fait partie de.
Echo Chrome, j'en ai acheté un 2 euros il n'y a pas longtemps, en boîte.
Ah,
c'est plus cher.
On n'est pas là pour tes petites annonces, Johnny. On va passer au fail maintenant. Et là, Camille, le fail de la semaine, il est.
Bah, je me tape tous les fails à chaque fois dans les podcasts. Donc
non, c'est pas vrai. T'as eu un win il n'y a pas longtemps.
Oh, la dernière fois, c'était encore un fail.
Ah ouais. Bon, alors quel est ce fail?
Peu importe. Alors, c'est un fail qui va remonter. Enfin, l'affaire est sortie en fait au mois de mai. Ça concerne Valve. En fait, qu'est-ce qui s'est passé en 2012? Donc, il y avait une salariée en fait de Valve qui travaillait en tant que traductrice pour la boîte. Elle faisait notamment des traductions en espagnol.
D'accord.
Et elle travaillait donc à Washington. Et elle a fait une demande en fait sa hiérarchie pour pouvoir changer de sexe. Donc déjà voilà. Ensuite elle a demandé à déménager à Los Angeles pour faire cette fameuse opération. Sa hiérarchie a accepté, donc pour l'instant rien de spécial. Sauf que, déjà, première chose qui va pas forcément, c'est que Valve lui a proposé de changer aussi de poste et de devenir non plus salarié de Valve, mais de traductrice indépendante. Donc déjà, ça laisse entrevoir un peu ce qui va se passer par la suite. Donc, elle a déménagé à Los Angeles et là, les malheurs ont commencé pour cette personne. Son supérieur a commencé à être vraiment très, très, très antipathique envers elle suite à ce changement de sexe. Il a, par exemple, au titre des exemples, il l'appelait ça, donc ça laisse imaginer un peu le personnage.
D'accord.
En plus, on apprend que ce monsieur était charmant puisqu'il exploitait aussi des mineurs pour faire de la traduction gratuite.
Okay.
Donc, encore une fois, quand on sait que Valve veut se donner vraiment une image de boîte exemplaire et un peu fun, etc., quand on apprend qu'il y a des affaires comme ça, c'est vrai que ça met un coup un peu au moral, etc.
D'accord, et du coup, là, on est à un procès. Qu'est-ce qui se passe ?
Du coup, cette femme, ensuite en 2016, en fin 2015, elle apprend que bah, elle va être tout simplement licenciée pour raison de relocalisation. Sauf qu'on l'a pas du tout invitée à revenir à Washington, bien au contraire. Et donc, elle porte plainte, elle demande 3,15 millions de dollars à Valve, donc pour cette raison, pour aussi outrage entre guillemets, enfin pas outrage mais non-respect de la vie humaine, etc. Et c'est une affaire qui va faire grand bruit.
Elle le fait déjà de toute façon.
De toute façon, bon, au niveau de l'argent, on se doute que Valve ça les inquiète pas forcément, parce que
en termes d'image, par contre, c'est
en termes d'image, c'est vrai que ça fout un coup au moral, surtout que comme je vous l'ai dit, Valve ça fait très longtemps qu'ils donnent vraiment cette image de un peu de boîte parfaite, exemplaire, où les gens travaillent, sont vraiment la belle vie finalement dans leur locaux, tout le monde fait un peu au niveau des projets, c'est vrai que c'est vraiment pas terrible, ça assombrit un peu cette image, et on va voir ce que ça donnera par la suite, cette affaire. Si ça vous intéresse d'ailleurs, il y a un site américain, donc celui qui a... Alors je me rappelle plus le nom, j'en suis désolé, mais il est possible de retrouver l'affaire complète en, vous savez, l'imprimé en fait du procès, donc tout est expliqué, et c'est vrai que c'est...
D'accord. Mais après, il faudra voir si c'est une responsabilité collective ou individuelle aussi.
Mais c'est ça, parce qu'en fait, il y a des choses qui sont pas encore précisées. Ça dépendra du procès complet qui va se tenir, et on verra si déjà elle obtient gain de cause. Et ce que Valve va, parce que Valve pour l'instant a été totalement muet sur l'affaire, rien du tout qui a été fuité, donc on verra aussi ce qu'ils vont dire.
S'ils se prononcent là-dessus, si Gabe Newell a envie de dire quelque chose. Bon écoutez, je pense que c'est l'ambiance parfaite maintenant pour passer au premier jeu de cette semaine. On va parler, vous pouvez l'entendre, de Overwatch. Oh là là, on se rappelle d'Overwatch quand il avait été annoncé, on se disait Blizzard ils font un FPS en ligne, mais vous pensez qu'ils vont s'en sortir?
Personne.
Aujourd'hui, Rudy, la réponse, c'est...
Ah, et la réponse, c'est oui, il est excellent. Enfin, Overwatch, c'est over hype, over super, over tout ce que vous voulez.
Parce qu'il a pété tous les records déjà avant d'arriver. La bêta, c'était 10 millions de personnes à peu près.
C'est ça, oui, c'est ça. Sachant qu'avec des clés bêta, lors de la bêta fermée, qui se vendaient jusqu'à 100, voire 200 dollars, en fait, uniquement pour pouvoir tester le jeu, les clés sur eBay, c'était très impressionnant. Et surtout, une campagne marketing qui a été extrêmement bien gérée de la part de Blizzard. On pense notamment à tous ces courts-métrages qui ont été diffusés, les comics, il y aura bientôt des graphiques qui vont aussi.
Ça, c'est des choses que tu as appris en interviewant les deux des auteurs. Oui. Vous pouvez retrouver l'interview sur Gameblog, n'hésitez pas à aller voir.
Je vous invite d'ailleurs.
Excellente interview de. Alors,
merci.
Attends.
Donc, c'est Lee Sparks, fait, qui est senior producer sur le titre, et Michael Chu, qui est senior game designer.
Très bien. Et donc tu les interviews à ce sujet, et donc il y aura plusieurs façons de découvrir les personnages et un peu de transmédia, quoi.
C'est ça, pas qu'un peu. C'est ça qui est assez impressionnant pour un titre, pour un FPS en équipe en fait.
Et du coup, est-ce que c'est du Blizzard pur jus, ou t'as vraiment été étonné par le design, etc., ou c'est où tu t'y attendais vraiment finalement?
Quand t'avais fait la preview, bien emballé.
Sur la preview, j'étais déjà bien emballé. Plutôt à la sortie du jeu, à l'annonce du jeu en 2014, non. M'attendre comme ça, justement, voir ce style complètement cartoon, un petit peu à la Pixar, non, je m'y attendais pas.
Un FPS de la part de Blizzard, c'est vrai que c'était un peu couillu, parce qu'ils étaient vraiment habitués finalement à l'univers un peu heroic fantasy.
Ils s'habituaient à des trucs plus stratégie, plus RPG.
Peu d'habitude, on a des orcs avec des grandes armures, et là finalement, on se retrouve...
Starcraft,
mais Starcraft, c'est du RTS aussi.
C'est
SF.
D'accord.
Dans le style de jeu,
on est dans un style complètement différent. On a une petite coréenne avec un mecha qui est en train d'attaquer justement
un grand singe gigantesque.
Un gros singe, là, ce fameux.
Avec un samouraï qui est juste derrière, et un pistolero qui traîne aussi. Enfin, il y a une galerie de 21 personnages.
21 personnages, sachant qu'il y aura plus et qui seront gratuits. Donc, c'est important aussi de le dire. Les futures mises à jour, aussi bien personnages, cartes, seront gratuites. Donc ça fait vraiment plaisir. Et donc pour revenir sinon au jeu,
qu'est-ce qui fait sa force, dis-moi.
Qu'est-ce qui fait
maintenant
sa force,
c'est le moment de tout balancer.
Ah, c'est le moment de tout balancer. Déjà, c'est un concentré d'action pur et dur. C'est frénétique, les parties ne durent qu'entre 5 et 10 minutes. Vraiment, ça va très vite. C'est du 6 contre 6. C'est que de la défense ou de l'attaque. C'est-à-dire vous avez un point de contrôle, par exemple, à aller défendre, et vous devez y aller, vous devez tuer tous vos adversaires pour vous assurer de gagner. C'est aussi simple que ça. Justement, tout est fait pour toujours vous pousser à aller vous battre. Tout est fait.
Et par équipe uniquement.
C'est par équipe uniquement. Effectivement, par équipe uniquement. Et il n'y a pas de mode solo.
D'accord.
Vous pouvez effectivement vous amuser dans le mode entraînement. Mais sinon, non, c'est que par équipe.
Du coup, le jeu pousse bien au team play ou pas du tout?
Ah, mais énormément.
Ça, c'est vraiment
en fait
ce qu'on attend vraiment, parce que finalement, c'est vrai que les gens, il y avait beaucoup de promotion là-dessus, disaient que les classes étaient complémentaires.
Oui, voilà. Ouais. Et c'est exactement ça.
Il y a même eu des moments où tout le monde se mettait à avoir des équipes de tracers, et finalement, parce qu'ils se disaient, oui, elle est plus forte que les autres.
Il y avait un petit peu tout ça, ça a été équilibré par la suite, d'accord, mais effectivement, la force du titre, c'est, voilà, c'est ça aussi, c'est cette complémentarité. Vous avez quatre classes différentes, donc avec les attaquants, les défenseurs, les tanks,
les milieux et les gardiens de but, ouais.
Voilà, exactement, c'est ça.
Pardon. Les tanks et
les tanks et les supports, en fait. D'accord. Et oui, et donc tous ensemble devez vous organiser, vous organiser tous ensemble pour essayer de battre vos adversaires, sachant que il y a aussi une autre particularité du titre, c'est que vous pouvez changer à tout moment de personnage. Et donc imaginons par exemple là, voilà, on voit là le pistoleros, vous essayez d'attaquer vos ennemis, il y a un gros singe qui vient devant vous, vous pouvez pas le tuer, bam, vous pouvez switcher, prendre un autre et prendre Tracer par exemple encore une fois et lui passer derrière, le tuer.
Attends, tu peux changer quand tu veux.
Quand on veut. Et là, pour le coup, ça change tout ça. Exactement. Donc, parce qu'en fait, il faut toujours adapter sa stratégie au fur et à mesure du jeu. Et donc, c'est 5-6 minutes de jeu, mais pendant lesquelles on est constamment. Enfin, on est à fond dedans, en fait. Il faut toujours réfléchir, on se lance, tout est fait pour nous emmener vers l'action. On doit à chaque fois changer de personnage pour s'adapter. Enfin, on n'a aucun moment pour respirer. Et. Enfin, j'aime ça en tout cas.
D'accord, pas de défaut majeur à repérer.
Non, j'en cherche et j'arrive pas à en trouver.
Je sais pas, en termes de mode de jeu peut-être. Non, rien du tout, tout va bien.
Ah, tout va bien pour le moment.
Fréquentation d'ailleurs. Est-ce qu'il y a eu des problèmes de serveur au lancement? Une fameuse erreur 36 oui. Comme on a pu en...
Alors, non, là pour le moment, j'en ai pas eu. Mais ouais, j'en avais eu effectivement
à 1h du matin le mardi 24.
Voilà. Non, lors d'un certain live. Ah, non, même pas.
Ah oui,
le
pendant
coup.
Le live, oui, c'est vrai.
Lors d'un certain live, ouais, je suis resté bloqué. Ouais. Mais non, à part ça, sinon j'ai eu aucun problème. Et là, ça, c'est étonnant.
Au départ, c'est devenu la patte Blizzard. Parce que pour Diablo 3, il y a déjà eu une fameuse erreur.
Bah, l'erreur 36, c'est ce que je disais.
Effectivement, ouais, la fameuse erreur 36.
StarCraft 2, idem.
Ben là, pour le coup, après, effectivement, le lancement a été retardé de quelques heures.
Ah
ça
bon
c'est vrai.
Ah, je croyais que ça avait duré même pas un quart d'heure. Non, c'est vrai, ça a vraiment été long.
Moi, ça a mis un peu de temps, effectivement. Ça dépend un peu des configs.
Poufy m'avait expliqué que genre il avait attendu même pas un quart d'heure avant de pouvoir.
Ah, tu as eu de la chance. Alors pour le coup, moi j'attendais comme un chien. mais j'ai eu finalement. Et voilà, et depuis, aucun problème.
D'accord. Bah écoute, très bien, sorti donc le 24 mai.
Sorti le 24 mai, PC, PS4, Xbox One,
exactement. Je sais pas qu'est-ce que je pourrais te poser comme dernière question quand même à ce sujet, parce que j'ai envie de savoir si ça pourrait, je sais pas, remplacer Counter-Strike un jour, peut-être.
Alors là on est...
Plutôt Team Fortress.
Ah bah voilà, parce que j'y connais rien.
Plutôt voilà. Team Fortress.
La dernière fois que j'ai joué à un multi, c'était Counter-Strike.
Non, ça peut... Mais ce qui est sympa avec ce titre, en fait, c'est surtout qu'il va pouvoir plaire à tout le monde. Dans d'accord. le sens où il est extrêmement simple à prendre en main. Il n'y a pas justement, tu me parles de Counter-Strike, t'as pas 26 armes différentes, plein d'équipements à gérer. Là, il faut partir du principe qu'un personnage, c'est une ou deux armes grand maximum. Et donc, on peut très facilement identifier qui fait quoi. Et donc, vraiment, tout est fait pour amener les néophytes à profiter du jeu. Mais après, c'est le fameux mantra de Blizzard, hein, easy to play, hard to master. Et une fois qu'on a bien compris les mécaniques de base du jeu, on peut ensuite aller plus dans les stratégies, enfin, plus compliquées. Et donc, comme tu disais, pourquoi pas prendre plusieurs tracers ou organiser un petit bien son équipe pour réellement dominer la
partie.
Pour
équilibrer, ouais, un petit peu au niveau des rôles. Exactement. Très bien. Bon, en tout cas, tu lui as mis combien d'ailleurs?
Ah, 9 sur 10.
Et un indispensable aussi.
9 sur 10, indispensable. Et d'ailleurs, il y a eu beaucoup de commentaires de personnes qui m'ont dit pourquoi tu lui as pas mis 10.
Mais pourquoi?
Honnêtement, je
t'as
sais
pas besoin de te justifier. Hein,
j'ai même pas besoin de me justifier, mais pour le coup, je sais pas. C'est vrai que je me dis ah, pourquoi pas. Mais bon, on verra.
Peut-être
bien.
Que tu reviendras sur la note.
Non.
Mais tu veux bien aborder ce sujet parce que justement. Pour le thème d'après, qui est The Witcher 3 Blood and Wine, on me pose souvent aussi la question. Et ben moi j'ai la réponse, c'est qu'il y a des trucs qui me cassent encore un petit peu. Comment dire? Non, je vais utiliser une autre expression.
Ah.
Parce que c'était sale. Il y a des trucs qui m'énervent encore un petit peu.
Ça peut
dans...
casser pas mal de choses. Hein.
Ouais, exactement.
Ouais, voilà, ça peut casser des choses. Voilà. Mais là je préférais pas le dire. Il y a toujours des trucs un petit peu énervants dans The Witcher, que ce soit le maniement de la jument à Blette, que ce soit comment dire, des petits problèmes d'interface, notamment de l'inventaire. Bon, ça c'est des choses qui m'avaient empêché de lui mettre 10 à l'époque. L'extrême facilité du jeu aussi, hein. Faut quand même dire qu'il y avait un moment, un seuil bien précis où il n'y avait plus besoin de progresser. D'ailleurs, c'était un des problèmes de Hearts of Stone, c'est qu'il était très mal équilibré et que, à part quelques boss qui étaient vraiment insoutenables, le reste du temps, bah, c'était une balade de santé, quoi. Et les différents bonus, les loot, les trucs comme ça, on s'en foutait complètement, les enchantements, pareil.
Ouais, mais dis-moi, à moi qui ne joue qu'à du RPG japonais, justement, oui. Là, on me parle, c'est RPG, c'est ça, ouais. C'est quoi un petit peu, justement, ce DLC-là?
Bah, c'est un DLC, en fait, qui est une extension, en fait. C'est juste une extension. C'est carrément une toute nouvelle région pour Gérald de Rive, qui va aller passer un petit peu sa retraite, on va dire, dans un endroit qui est bien connu, hein, des gens qui ont lu les bouquins d'Andrzej Sapkowski, de la saga du Sorceleur. On se retrouve dans une région qui s'appelle Toussaint, donc, qui est une région qui n'a rien à voir avec celle qu'on a vue dans The Witcher 3 de base. C'est-à-dire que c'est pas du tout un endroit gris, moyenâgeux, dégueulasse. C'est plutôt le sud de la France, plutôt les pays latins, époque Renaissance. C'est très,
faudrait
faire les grillons si vous voulez. Ouais. C'est très chaleureux, c'est très
un petit peu de pastis. On est parti.
Comment dire, c'est une toute autre ambiance, quoi. Ils appellent ce pays, cette contrée, le duché de l'amour et du vin. C'est exactement ça. Quand on arrive, tu vois des moulins, des vallées partout, des maisons pleine de couleurs, c'est une toute autre ambiance. Ils en ont profité d'ailleurs pour la version PC, en tout cas pour rehausser un peu les graphismes, et ça se sent immédiatement, que ce soit la densité justement des végétations ou les architectures. On a l'impression qu'elles sont moins ciselées que dans le jeu original. Du coup, c'est carrément plus engageant encore visuellement, et c'était déjà le cas avec The Witcher 3 qui est encore aujourd'hui un super beau jeu. Là, on a l'impression qu'ils ont passé encore un petit cap. Je sais pas pour les versions consoles. Moi, j'ai joué qu'à la version PC et ça se passait.
Il y a déjà des modes qui sont sortis pour améliorer les graphismes.
Absolument, oui. Et puis même CD Projekt a essayé de réagir parce qu'ils ont eu une espèce de polémique sur un downgrade du jeu. Alors que quand ils jouent, tu te poses pas de questions, quoi. Tu te dis pas.
En fait, ouais, c'est vrai que par rapport à ce qu'on avait vu
les premières vidéos,
au début de l'E3.
Ouais. Les toutes premières vidéos étaient. Ils savaient même pas ce qu'ils allaient avoir entre les pattes avec la PS4 et la Xbox One. Donc voilà, ils ont visé peut-être un peu haut. Mais au final, on n'était quand même pas déçus. Alors, pour ce DLC, on va dire 25-30 heures de jeu supplémentaires. Sais combien de quêtes différentes, que ce soit des quêtes des contrats
180,
de...
il me semble, non, c'est pas ça.
Non, 90, en fait. Mais
oui, 90.
J'ai pas compté exactement celles que j'ai faites. Des fois, tu y files les chiffres, donc... On se retrouve avec un nombre de quêtes incroyables, quasiment toutes scénarisées, sauf peut-être les points d'intérêt, comme dans le The Witcher 3 original, j'ai envie de dire, où tu te retrouves juste avec un petit coffre à ramasser et puis il y a du loot à l'intérieur. Là, à chaque fois, pour ces choses-là, il y a toujours des petites lettres qui traînent pour expliquer ce qui s'est passé, pourquoi, tiens, il y a une pièce d'armure ici, etc., etc. Il y a toujours des explications. L'histoire.
Dark Souls.
Ouais, toujours, à peu près. Et donc l'histoire, on va parler un peu de la trame principale aussi. En plus de tout ce contenu, il y a des contenus annexes, on va dire, qui t'amènent un peu plus de choses dans le système de jeu. Alors, vous allez avoir des mutations, vous allez avoir possibilités d'aller chercher des nouvelles armures, des nouveaux sets d'armures. Je sais pas si toi, Johnny, t'avais fait des quêtes pour récupérer les armures de l'école du loup.
J'avais pas mal dosé le jeu, ouais, parce qu'il y avait des trophées.
Ah oui, toi, quand t'as des trophées. Ouais, voilà. C'est vrai. Bon, là, le truc, c'est que en fait, les armures du loup, du chat, du griffon, de ces écoles-là, vous pensiez avoir atteint le maximum, avec ce Blood and Wine.
C'était pas terrible, hein, dans le jeu d'origine.
Si, elles étaient très bien. Moi, j'ai fini avec l'armure du loup. Elle m'a très bien.
J'avais récupéré, j'ai pas fini avec. Hein.
C'est vrai, ouais. Peut-être que t'as pas trouvé la bonne.
Ouais,
mais
j'ai peut-être pas tout trouvé.
Bref, il y a maintenant des niveaux de grand maître. Donc, il va falloir économiser un peu plus. Une fois que vous aurez trouvé les parties pour vous faire les meilleures armures, vous allez avoir plus d'épées, encore plus de lames. Et là, vous allez vous dire à un moment, là, j'ai récupéré plein d'armes, j'ai récupéré plein d'armures, mais j'ai pas envie de les revendre. Il y a des trucs, mythique, mythologique,
gros problème
presque.
Du premier, c'est le coffre.
Eh bien,
du premier.
C'est même plus l'histoire de stockage maintenant, parce que dans Blood and Wine, à un moment, dans votre mission générale qui vous voit partir sur les traces d'un monstre qui terrorise la région de Toussaint, à un moment, la duchesse va vous offrir carrément une baraque. Hop, tiens, les clés d'une propriété, et vous allez pouvoir restaurer cette baraque. Ça n'a pas beaucoup d'apport en termes de gameplay, encore une fois des petits bonus qui servent à rien. Si vous êtes déjà niveau 40 par exemple, vous allez passer le jeu, mais enfin l'extension, les doigts dans le nez.
C'est du fan service en fait.
C'est plus une histoire de pouvoir avoir une petite surprise à toute fin, en plus d'autres dont je tairai le contenu. C'est plus une histoire aussi, une fois que vous vous, comment dire, vous restaurez cette baraque. Vous aurez aussi des petites plantes d'ailleurs que vous pourrez avoir gratos, ou des bouteilles de vin qui vous seront livrées si vous résolvez certaines enquêtes.
On est sur Harvest Moon là, j'ai l'impression.
Non, parce que tu fais rien à part te balader et ramasser. Okay. Hein, tu deviens pas fermier. tu te contentes de regarder tes servants s'occuper de tout. Et donc vous restaurez le truc et vous allez avoir de quoi poser des armes et des armures pour juste exposer un petit peu tout ce que vous avez. Il y aura aussi des tableaux d'ailleurs. Il y aura aussi des tableaux que vous pourrez mettre dans votre piole. Il y aura la chambre d'amis à restaurer. Il y aura un laboratoire secret en dessous pour enfin faire quelque chose avec les mutagènes qui traînent dans votre inventaire. Justement, en parlant de l'inventaire, avec Blood and Wine, il y a une mise à jour 1.20 qui permet d'avoir des raccourcis, des facilités de navigation qui n'étaient pas disponibles avec le jeu d'origine. Il y a des onglets différents par rapport à tous les objets. Vous allez savoir quel bouquin vous avez lu, enfin. Alors ça, à chaque épisode de The Witcher, ils nous font le coup. C'est d'abord, ils nous balancent le jeu comme ça. T'as des bouquins que t'arrives pas à classer, tu sais pas lesquels t'as lu, tu sais pas si tu dois les revendre ou pas. Et ben là maintenant, tu sais, et c'est comme ça à chaque épisode. On sait comment les faire, on sait comment on peut lire les bouquins une fois qu'on les a ramassés, ou les parchemins directement, hop, un coup sur le stick droit et ça s'affiche devant nous. On sait exactement, il y a beaucoup moins de navigation inutile. Et c'est pareil chez le marchand. Quand vous allez chez un marchand maintenant, si vous manque des ingrédients, vous pouvez les acheter directement. S'il les a pas, les épingler pour savoir lesquels il vous faut pour forger une nouvelle arme ou une nouvelle pièce d'armure. C'est beaucoup plus simple en tout cas de ce côté là et c'est un des gros points, un des gros atouts de cette version de Blood and Wine, qui apporte donc cette mise à jour en plus. Et pour le reste, c'est du The Witcher, hein, avec des quêtes superbement écrites. Celle de la trame principale en particulier, vraiment, pour ceux qui connaissent bien les bouquins, qu'on fait les deux précédents jeux, vous allez vous retrouver avec des situations. Moi, il y en a une, je l'ai déjà dit, hein, je crois, dans mes impressions, mais il y en a une qui m'a mis la larme à l'œil, une retrouvaille qui m'a mis la larme à l'œil. Je m'y attendais pas spécialement au moment où je l'ai fait. Alors après, il paraît que certaines personnes sont au courant. Moi, je ne savais pas à ce moment-là. Mais bref. Et donc, c'est toujours aussi bien écrit. Il y a des tas de clins d'œil à la pop culture, et aussi à des jeux vidéo. Hein. Je peux vous dire que, par exemple, dans la ville principale qui est splendide, alors vraiment splendide, qui grouille de vie qui dispose d'une architecture absolument incroyable, et bien, il y a une place qui s'appelle la place Epona, voilà, par exemple. Ça fera plaisir à Carole, par exemple, ce qui aime beaucoup Epona. Et donc il y a des clins d'œil comme ça, des easter eggs qui se baladent à droite à gauche, qui vont faire plaisir à tout le monde. Et après, le problème, c'est que, encore une fois, comme pour The Witcher 3, il paraît qu'il y a des personnes que ça n'a pas dérangé de pas savoir ce qui s'était passé pour Geralt avec Ciri ou avec Yennefer avant que The Witcher 3 sorte, mais c'est quand même un plus, on peut le dire. Moi, je vais vous dire, j'ai mis 4 à l'extension, mais si vous êtes un gros fan de The Witcher,
attention,
8, pardon, excusez-moi, oh là là, oui, j'ai oublié la nouvelle notation, pardon.
Dans l'éditeur de test, c'est toujours la vieille notation.
Oui, pardon. C'est ça. Donc j'ai mis 8 sur 10, mais vraiment, ça peut monter à 9, voire à 10, si vous êtes un gros fan de The Witcher. Mais vraiment, mais je me suis quand même placé plutôt du côté des personnes un peu novices.
Tu parles de fanservice,
oui.
Ça me fait penser là un peu au DLC Citadel de Mass Effect. Est-ce que ce serait comparable en ces termes ?
Je l'ai pas fait.
Tu l'as pas fait ?
Non.
Ah, si t'aimes Mass Effect, vas-y.
Ouais, malheureusement, je l'ai pas fait, le DLC Citadel. C'est quoi, tu reviens à la Citadel et t'as des...
Ouais, tu recroises tout le monde, il y a des vannes, des easter eggs à droite à gauche. Ah, enfin, c'est assez génial.
Je l'ai pas fait, malheureusement. Moi, j'ai fait partie des gens qui signaient la pétition pour la fin. Non, je déconne, jamais de la vie. Bref, The Witcher 3 Blood and Wine, vous pouvez y aller vraiment. Si vous avez été captivé par The Witcher 3, le jeu de base, il n'y a même pas à se poser de questions.
Il est indispensable aussi ou...
Oui, bien sûr, il est indispensable.
Voilà.
Oui,
deux indispensables.
Juste indispensables, une autre question. Moi, j'avais trouvé le monde ouvert du 3 assez inutile. En fait, ça te faisait plus perdre du temps. D'ailleurs, j'ai vu que tu l'as mis dans les points faibles à Blette. Du coup, est-ce que tu as toujours ces trajets complètement inutiles?
Bah, c'est un monde ouvert, donc de base...
Moi, je sais que j'avais préféré le découpage du 2, où certes, c'était des zones plus ou moins fermées.
Ça peut faire partie des points faibles.
Ouais.
Ça peut faire partie des points faibles. Moi, le 2, personnellement, je vous le dis, le 2 m'a fait 10 fois plus d'effet que le 3, à l'époque où il est sorti. Mais le 3 est un...
En termes de mise en scène,
c'est un jeu extraordinaire.
Il y a pas
photo, hein, mais oui, ça peut faire partie des trucs un peu gênants. Okay. Et puis les déplacements avec Ablette.
Le 2 avait, à l'époque, était une plus grosse claque.
Mais le 2,
plein de sens en fait. Mm-hmm.
Mais le 2, quand il est arrivé, il a mis une fessée à BioWare, quoi. Mm. Il a dit, tiens, à propos, les RPG occidentaux maintenant, ça va être ça. Ouais. Donc ça va être beau, ça va être bien écrit, ça va être ultra rythmé, et en plus quand vous ferez des choix, bah, ce sera vraiment important parce qu'il y aura tout un chapitre entier.
Ah, les choix,
qui sera...
ne parle pas des choix entre le 2 et le 3 s'il te plaît.
C'est vrai. Oh, mon Dieu, dernière chose, les choix que vous avez fait dans The Witcher 3, original, mon avis, faites gaffe pour Blood and Wine, il y aura peut-être des petites incidences. Moi je sais que j'ai discuté avec un autre testeur, avec Max hein, de GamerGen, on n'a pas eu du tout la même fin. Sur certains points et notamment l'épilogue, donc moi j'étais plus gâté que lui, j'ai eu exactement ce que je voulais, donc voilà, vous, vous n'hésiterez pas dans les commentaires à me dire quand vous aurez fini Blood and Wine qui sort le 31 mai, et ben, n'hésitez pas à me dire sur PC, PS4, Xbox One, n'hésitez pas à me dire ce que vous, vous avez eu comme fin, ça pourra être un bon point de discussion. Johnny,
ouais, là on parlait justement de garder les choix.
Ouais.
Le fait de passer du 2 au 3, c'est un scandale. Moi, je sais que j'ai fait. Donc, le 2, je l'ai pas mal dosé. J'ai fait un peu toutes les fins possibles, etc.
Ah, ouais, j'ai tout fait. Donc, tu peux y aller.
Et
dis-moi.
Donc, moi, j'ai commencé le 3 quand on me posait les questions en disant j'ai sauvé Saskia, je suis allé avec les Scoyatel, etc. On te balaye ça d'un revers de la main, mais oh, mon Dieu. Mais,
bah,
mais
c'est
pourquoi ?
Mais moi j'avais mes sauvegardes par contre. J'étais peinard sur mon PC.
Moi je suis passé de 360 à PS4.
Ah oui, bah, voilà.
C'est ça le problème.
Mais non, oui. Mais même, je veux dire, elle disparaît complètement du jeu, la femme dragon, quoi.
Ah bah oui, non mais ah merde, c'est
spoiler sur la fin du 2, excusez-moi.
Non non mais c'est vrai, tu as
va.
Raison.
je pense que ça.
Elle
va.
Et je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs le Scoyatel.
Oh, je sais plus non plus.
Bref, Yoret. Ouais.
Cédric, non, c'est un autre.
Non, c'est encore un autre.
Ouais.
Mais oui, c'est vrai que tu les vois plus. Hein. Ouais, mais bon, c'est comme ça. C'est la vie
de la circulation.
Bref, n'hésitez pas une seule seconde pour Blood and Wine. C'est peut-être une des meilleures extensions jamais parues. Avec, moi, il y en a une que j'ai beaucoup aimé en début d'année. C'était The Following pour Dying Light.
Ah, ouais.
Ça fait partie des trucs où c'est que ça peut être des jeux complets. Quoi. Voilà.
Et vous avez une version boîte qui sort. Enfin, une version boîte avec un code de téléchargement, avec la deuxième partie du jeu
des
de cartes de Gwent.
Exactement. Voilà. Cartes de Gwent qui ont encore une importance aussi dans Blood and Wine, puisque vous allez en récupérer d'un nouveau deck, un deck Skellig.
Ça veut dire que ces enfoirés, ils vont te vendre un cinquième set à part, hein, peut-être.
Peut-être, peut-être pas.
Dans la version ultimate du jeu GOTY.
Ah bah, quand tu auras la version GOTY, croyez-moi, là, je pense qu'il y a des chances que je revienne sur la note. Mais j'en dis pas plus.
Il y a des jeux de cartes physiques vendus avec, en plus.
Oui, oui. Oui.
Oh, ouais.
En fait, sur le premier DLC, t'avais les deux premiers jeux de cartes de Gwent. Et dans le deuxième DLC, bah, tu as les deux decks supplémentaires. Voilà. Et tu as toutes les cartes du jeu.
C'est plus possible.
Et d'ailleurs, je rappelle aussi, hein, si vous n'avez pas eu les versions physiques, si vous avez acheté le Season Pass en téléchargement, il y a un lien pour pouvoir commander. Enfin, c'est CD Projekt qui va vous envoyer en fait les decks de cartes physiques avec une preuve d'achat. Bah, ils vous envoient ça chez vous, pas de problème. Ils veulent pas que vous soyez lésés. Ces gens-là sont géniaux. Ils font des cadeaux,
c'est
comme
sympa,
ça. Mais c'est ultra sympa. Et voilà. Et on peut que les applaudir. Et on espère. Oui, vive la Pologne, absolument. Et on espère qu'ils vont nous montrer Cyberpunk 2077 très bientôt.
Oh oui.
Camille. On va passer maintenant au troisième et quatrième thème. On va faire un petit condensé des deux jeux dont tu vas nous parler. On va commencer par Stellaris, parce que là, Stellaris, c'est toi qui as insisté carrément à la rédac, parce que tu t'es dit, t'as levé le doigt comme ça, tu fais, moi, je veux y jouer, je veux le faire le test maintenant, c'est comme ça, allez, laisse-moi faire, Julo.
Ouais.
Nous, on était obligés parce que t'avais un flingue dans les mains. Donc, Stellaris, qu'est-ce
alors,
que tu peux nous dire dessus?
Alors déjà, il faut savoir que donc, développé et édité par Paradox Interactive, donc moi, pour ceux qui me connaissent un peu, c'est vrai que Paradox Interactive, c'est un peu mon studio fétiche. Je les suis depuis presque leur début. Et c'est vrai que...
Mais alors, quoi? Parce que c'est sympa de me dire ça, mais...
En fait, ils sont spécialistes dans le wargame, donc ils ont notamment développé et édité la série Europa Universalis, la série...
Pas très connue, ça, hein, je crois. Hein.
Si,
Personne n'en a jamais entendu parler.
Crusader Kings,
ouais.
Le 2 qui avait énormément marché, qui avait été un gros succès, qui est resté sur Steam dans les meilleures ventes pendant plusieurs mois. Donc voilà, c'est grâce à eux qu'on a tous ces petits bijoux, et donc ils ont un peu comment dire, étonné leur monde en annonçant un 4X donc spatial du nom de Stellaris. C'est le jeu que vous pouvez voir à l'écran si vous êtes premium, et c'est vrai que Stellaris, j'y attendais et j'en attendais beaucoup aussi. Donc qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est un 4X. Donc 4X pour extermination, exploration. Alors j'ai oublié les deux autres X, mais peu importe.
Bon, on peut en trouver, hein, je sais pas, ex-femme, ex-factor, enfin je sais pas, on peut en trouver plein. Mais bref, c'est un jeu de gestion et de stratégie en même
temps.
Voilà,
de stratégie. En sachant que là, ça s'apparente plus au wargame, donc c'est pas du tout vraiment ce qu'on appelle un jeu de stratégie en temps réel, c'est plus de la stratégie, comment dire,
tour par tour.
Bah, pff, c'est ni du tour par tour ni de la RTS, parce qu'en fait on peut mettre en pause son jeu. Alors déjà, avant de parler de ça, je vais vous parler un peu des spécificités du jeu. Mm-hmm. Alors déjà, on crée sa race de part en part, c'est à dire qu'on peut tout faire. On peut créer un nom pour sa race, on choisit un portrait. En fait, il y a différents modèles. On a les humains, il y a une race qui s'apparente un peu aux oiseaux.
Mais c'est comme sport en fait, on peut créer ce qu'on veut.
Pas vraiment, parce que là on crée pas vraiment, vraiment le physique. On choisit la race vraiment. Mm. Le portrait que notre race va avoir dans le jeu. Parce
toi,
que
je suis sûr que tu l'as appelé PC Master, ta race.
non, pas du tout. justement, alors que tu m'as coupé dans mon,
non,
dans mon élan.
Tout.
Donc, bref, on a des
une
humains, on a
ça,
une race qui ressemble aux oiseaux, une race qui ressemble un peu aux félins, etc. On va choisir donc le portrait qui va être effectif dans le jeu, parce que mm-hmm. le jeu est aussi multijoueur, donc ça va permettre aux autres joueurs de le voir.
De t'identifier. Ouais.
On va pouvoir choisir le nom de son empire. Son lieu de départ, parce qu'en fait on choisit un système solaire par lequel on va commencer, donc on va pouvoir aussi nommer son étoile, nommer sa planète capitale. Mm-hmm. Enfin, bref, on peut vraiment choisir tout un tas de choses. Et ensuite, plus important, on va pouvoir aussi choisir sa technologie militaire. On va choisir son mode de déplacement. Par exemple, si on a plusieurs modes de voyage spatiaux, on a le mode de voyage par trou noir, par distorsion. Enfin, on va choisir tout ça et ça va avoir un effet vraiment dans le jeu.
Okay.
On va aussi choisir son armement, sa technologie d'armement. Tout ça, ça va avoir une influence. Et donc, quand on commence le jeu, on commence sur une planète, donc notre planète capitale. On n'a que celle-ci. On a notre gouverneur, notre chef, notre gouvernement, et on a une toute petite flotte, et on va devoir agrandir cette flotte pour au fur et à mesure explorer donc l'espace autour de nous.
Et c'est comment ça se passe, comment? Alors, justement, ça se passe avec des ressources à trouver.
Ça se passe, jeu stratégie oblige, ça se passe avec une gestion de ressources. Donc on a plusieurs ressources qui existent. Il y a le crédit, donc ça va être, on va le gagner en exploitant des ressources soit sur notre planète ou soit sur deux planètes qu'on va ensuite dominer et exploiter. Et pour cela, on va falloir faire de l'exploration. Le jeu mise beaucoup sur l'exploration, c'est-à-dire qu'on va devoir engager des scientifiques pour qu'ils puissent partir sur leur vaisseau d'exploration très loin dans l'espace, en sachant que l'univers est gigantesque. On peut choisir une galaxie qui fait 1000 étoiles. Donc je vous laisse imaginer, pour chaque étoile, il y a environ 3 planètes et 10 planètes, donc c'est tout bonnement énorme. On va devoir explorer et on va pouvoir tomber sur des secrets. On va pouvoir, un exemple tout con, on explore un système solaire qui est très loin de nous. Mmh. On va tomber sur des ruines, sur une planète d'une ancienne civilisation extraterrestre. Et on est
protéin.
En l'analysant, on va pouvoir, par exemple, trouver une technologie qui va nous permettre de faire un bond technologique énorme.
Mm-hmm. Et de prendre l'ascendant sur les autres races.
En sachant, comme je vous l'ai dit, qu'il y a aussi un mode coopératif et multijoueur. Mais ce qui est bien, comme à chaque fois dans les jeux Paradox Interactive, c'est que ce soit en solo ou en coop, il n'y a strictement aucune différence. C'est-à-dire qu'en fait, quand on joue en coop ou en multi, le joueur prend simplement la place d'une IA, et sinon c'est exactement pareil, c'est-à-dire que on va pouvoir sauvegarder quand on veut, charger quand on veut, enfin ça c'est vraiment un gros point fort du jeu.
D'accord.
Contrairement à Total War que je vais parler tout à l'heure.
Il y a uniquement du coopératif dans
le titre ? Et donc non, il y a aussi du multijoueur, du vrai multijoueur à 32. En fait, quand je dis coopératif, c'est-à-dire qu'on peut jouer aussi bien à 2 qu'à 32. D'accord. Donc ça reste du multijoueur, mais j'apparente ça du coopératif parce qu'il y a un système qui est très bien fait où on peut inviter un ami très simplement, et à ce niveau-là, c'est vraiment vraiment très bien travaillé. On peut par exemple choisir de commencer notre système solaire à côté de celui de la personne avec qui on joue. Donc ça, c'est un gros point fort quand on apprécie jouer avec ses amis. Mmh. Donc je conseille énormément ce jeu. Ça mêle aussi bien la stratégie militaire que la stratégie commerciale et diplomatique.
D'accord.
Donc à ce niveau-là, c'est vraiment extrêmement complet, et à tel point que pour l'instant, je ne lui ai trouvé aucun défaut. Enfin, aucun défaut apparent, évidemment. Sur le long terme, on peut dire qu'il y a quelques longueurs en mid-game, on va dire.
Ouais, pas de bug particulier.
Mais aucun bug, vraiment, enfin, vraiment un lancement, mais très très propre de la part de Paradox. Et on les salue pour ça.
J'ai l'impression que tu parlais de Babylon 5, moi, en fait, quand tu parlais de ça, c'est fou.
Mais tu sais qu'il y a beaucoup de points communs avec ce qui se faisait auparavant, parce qu'en fait, ils sont vraiment inspirés de tous les 4X, du style, comme Endless Space, par exemple, si vous avez entendu parler.
D'amplitude, ouais.
Voilà, ça s'inspire vraiment de tout ça, et le jeu est vraiment hyper complet, et
hyper,
c'est
riche,
raison, hyper riche. C'est pour ça, cette raison que je lui ai mis 8 sur 10.
D'accord, indispensable.
Je lui ai pas mis indispensable. Oh. j'ai pas mis indispensable.
Parce... Qu'est-ce qui s'est passé?
Mais, pff, disons que en fait j'ai hésité et puis finalement je me suis dit bon allez si
t'hésites c'est pas bon.
Bah exactement, ouais, si j'hésite c'est pas bon, donc j'ai préféré la 8, c'est une très bonne note déjà. Donc,
Ah mais bien sûr oui, on rappelle hein, c'est très bon donc très bon.
Simple curiosité, c'est sorti quand et t'en as combien d'heures de jeu?
Oui, tiens, c'est vrai.
C'est vrai que c'est sorti le 9 mai, on a un peu tardé entre guillemets à sortir le test parce que moi j'étais en parallèle aussi sur le test de,
oui,
de
non,
Doom, etc. Donc j'ai eu énormément de tests en même temps, mais j'ai passé 100 heures dessus déjà.
Oh. Ah ouais.
Donc c'est assez énorme. En sachant que le jeu précédent, j'y ai passé 850 heures sur Europa Universalis 4.
D'accord.
Et donc c'est le genre de jeu qui est un peu chronophage à mort.
Ah oui.
Attention, 100 heures depuis le 9 mai, c'est ça?
Ouais, depuis le 9 mai. Ouais.
Ah oui, quand même.
Donc,
chapeau bas.
C'est vrai que c'est des jeux à laquelle on passe énormément de temps.
Est-ce que tu dors la nuit?
Ouais, je dors la nuit pourtant. Et c'est vrai qu'en fait, on voit pas le temps passer. On a tellement de choses à faire. On va devoir gérer son gouvernement. On va devoir gérer ses flottes militaires. On va devoir faire du commerce avec les civilisations qu'on découvre. Parce qu'en fait, chaque fois qu'on explore une planète, on va possiblement découvrir une nouvelle civilisation. Donc, on va rentrer soit en conflit avec eux, soit au contraire, être en relation diplomatique. Voilà. Donc, c'est vraiment.
Mais bon, ça s'adresse essentiellement quand même aux fans du genre. Parce que un néophyte comme moi, par exemple.
Et ben non, justement, détrompe-toi. Parce que contrairement à la plupart des jeux Paradox qui sont vraiment. Pour les néophytes, vraiment à déconseiller. Ce jeu-là, malgré sa courbe d'apprentissage qui est assez longue, dès le début, c'est vraiment très simple à comprendre. Il y a un tutoriel qui est très très bien fait avec une espèce d'intelligence artificielle qui nous parle en haut à gauche de l'écran, qui va nous expliquer vraiment ce qu'il faut faire dans l'ordre. Et justement, au contraire, si tu n'as jamais touché un jeu Paradox, je pense que c'est celui qui est le plus abordable de toutes les séries. Donc à ce niveau-là, aucun souci, ne vous inquiétez pas, vous pouvez vous y jeter corps et âme.
Très bien. Donc PC uniquement,
PC
Mac
uniquement, oui, de toute façon, avec Paradox, maintenant on est habitué, c'est vraiment du PC pur et dur. Et
c'est pas le genre de jeu qui sont jouables sur
qui
console.
Qui sont pas jouables sur console.
Interface trop complexe.
Et de toute façon, même si vous avez un
PC. J'attendais ma sortie Vita, moi, je suis désolé.
Même si vous avez un PC, encore une fois avec Paradox, si vous avez un PC médium, même configuration low, vous pouvez y jouer parce que c'est vraiment très très bien optimisé et ça demande pas énormément
c'est
de ressources.
C'est pas l'esbrouf visuel, quoi.
Voilà, c'est pas Witcher 3, vous inquiétez pas, donc c'est parfait à ce niveau-là.
The Witcher 3, j'ai oublié de vous dire, mais il a été. Vachement bien optimisé.
Oui,
hein.
Mais c'est vrai que si on veut,
pour
on
Blood
veut,
and Wine, hein.
On veut en profiter à son graphisme maximum, voire ultra, il faut avoir une très bonne config. Donc,
c'est le moment de le dire. Même chose pour Overwatch, hein. Extrêmement bien optimisé sur PC.
Bon, c'est bon à savoir tout ça. On va passer au deuxième jeu PC dont tu vas nous parler, cher Camille, qui
une
lui
licence,
a une licence plus que phare.
Voilà. Bah, exact. Je suis aussi fan de la, un peu moins fan que chez Paradox, mais j'apprécie beaucoup le studio The Creative Assembly, donc responsable de la série Total War. Alors eux aussi nous ont étonnés. Pourquoi? Parce qu'en fait ils sont habitués à faire des jeux historiques, donc on avait Medieval, on avait l'époque romantique avec Rome 2, on avait Shogun,
et là ils sont allés voir du côté de chez Games Workshop.
Voilà, ils sont allés voir du côté Games Workshop avec l'univers Warhammer, donc c'est un peu surpris tout le monde parce que c'est vrai que c'était pas vraiment dans leurs habitudes. Alors moi j'ai pour dire la vérité, j'ai eu un peu d'appréhension avec ça parce que c'est vrai que l'univers Warhammer il est vraiment atypique entre guillemets, et en même temps il est très commun dans le sens où c'est des orcs qui se battent contre des elfes. C'est vraiment
oui, c'est inspiré beaucoup,
c'est du gros classique, ça s'inspire de Tolkien, ça s'inspire de tout ça, et c'est un peu du vu et revu. D'ailleurs si vous aimez bien Warcraft, il y a de gros rapprochements avec l'univers Warhammer, donc c'est vrai qu'à ce niveau là j'ai eu un peu
mais
peur.
Warhammer existait avant.
Oui, mais bon,
mince,
je parle vraiment au niveau des adaptations de jeu. Donc c'est vrai que donc comment se décline ce Total War? Donc comme pour les autres, il se décline en deux phases, donc une phase de tour par tour donc sur une carte de campagne, et une phase en temps réel pendant les batailles, donc comme vous pouvez le voir à l'écran pour les premiums, donc des batailles qui sont ma foi très 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 bien réalisées. Le moteur graphique fait vraiment bien son taf, c'était le même, enfin il était un peu retravaillé depuis, mais c'est le même qui tournait sur Rome 2 Total War. Et c'est vrai que c'est vraiment très beau ces phases de combat. La carte de campagne aussi, elle n'a pas à rougir parce qu'elle est vraiment très belle. On a plein d'effets, on voit des. Elle est très. La topographie est très, comment dire.
Variée.
Très montagneuse, très variée. On a vraiment beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Ça va des forêts assez denses dans le royaume des humains, à des marécages pour le royaume des contes vampires. Alors oui, justement, à ce niveau-là, ça sera vraiment ma grosse seule déception. Et par rapport aux autres épisodes de la série, c'est le très, très, très peu. Très. très faible nombre de factions. On a que 4 factions. C'est vrai.
Lesquelles?
Alors on a les peaux verts, donc les orques. On a les royaumes, donc le royaume de l'empire, les humains. On a les contes vampires et on a les nains. Ça fait très peu, en sachant que l'hiver Warhammer.
Mais où sont les où est le chaos?
Et bah, le chaos justement. Alors ça, c'est une grosse. C'est ce qui a fait
où
beaucoup
sont les
parler.
Skaven?
C'est ce qui a fait beaucoup parler, c'est que le chaos est disponible uniquement pour ceux qui ont précommandé le jeu,
en vente en
ou
DLC.
Acheté le jeu, ou qui ont acheté le jeu la semaine de la sortie. Donc encore, là on est le, quand vous verrez le podcast, bah, ça sera encore dans cette semaine-là, donc vous pourrez encore profiter du DLC chaos. Mais une fois que cette semaine finit, et ben ça sera trop tard et vous ne pourrez plus avoir
achète
le chaos.
Mon jeu plein pot.
Ouais, ils vont les, ils vont les vendre.
Achète
voilà,
le il sera disponible en DLC. Et voilà. Ça c'est vrai. C'est un peu ce que je reproche énormément à The Creative Assembly, c'est un peu leur politique de DLC qui est,
oh, mais ça, tout
qui
le
est
monde
vraiment
le fait,
hardir. Hein. Oh, mais, non mais eux c'est assez des, parfois même scandaleux. Pour Rome, il y avait des choses qui étaient pas très nettes non plus. Et c'est vrai que là pour Warhammer c'est encore pire, parce que c'est vrai qu'une race comme le chaos qui a une énorme importance dans,
mais
dans
les Skaven, dans le lore, pas, moi, les non, mais elfes, les... Sylvains, tout ça. Enfin toi.
Oui, bah oui, bah, crash, et voilà, donc crash. 4 factions qui sont quand même assez différentes les unes des autres, c'est-à-dire que ça soit pour le combat ou pour la gestion sur la carte de campagne, chacune a ses spécificités. Et on n'a pas du tout l'impression de faire une redite de la race qu'on a joué précédemment. On joue vraiment enfin, c'est vraiment un gameplay différent. Par exemple, les nains. Alors, dans ce jeu, on a l'apport de la magie. Bah, c'est une nouveauté, évidemment, en hiver Total War, puisque c'est un hiver fictif. Donc, l'apport de la magie qui va être assez important sur les champs de bataille. Ils vont être symbolisés sur la carte de campagne par des espèces de vents qui sont bleus. Donc, à ces endroits, ça voudra dire que si on a une bataille qui va se situer ici, on va pouvoir avoir des boosts de magie pour nos héros. Parce que oui, aussi, maintenant, on a un système de héros. Bon, donc ça a été un peu effleuré dans Rome 2 où on avait des généraux. Là, c'est vraiment des héros qui sont connus de l'univers de Warhammer, qui ont vraiment des spécificités. On a par exemple le roi nain qui peut faire voilà, avec son marteau, faire un saut et faire une onde de choc. On a tout ça. Et c'est vrai que donc chaque race a sa spécificité en combat. Par exemple, les nains, ils n'utilisent pas du tout la magie. Donc on peut se dire, bon, ça va être problématique, mais en fait, non, parce qu'ils ont, ils ont une infanterie qui est très puissante. Inversement, le royaume de l'Empire compte beaucoup sur sa magie. Pareil pour les contes vampires qui peuvent notamment lever des armées de morts vivants. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, ça c'est pas vraiment décevant, parce qu'on a un vent de fraîcheur à chaque d'accord. faction.
Donc c'est bien riche aussi en termes de possibilités.
C'est bien riche en termes de possibilités. Le seul reproche aussi que j'ai à faire pour le coup, c'est dans en termes de gameplay pur et dur, et là pas du tout en termes de politique du studio ou de la production. On a toujours le problématique des sièges, parce que c'est vrai que le système de défense et d'attaque, il est un peu mollasson. Ça c'est un peu le gros défaut qu'il y avait depuis le début Total War, finalement, à part pour Medieval qui avait réussi un peu à changer les choses. Mais c'est vrai que là c'est parfois un peu mou, des choses qui servent un peu à rien. Par exemple, ils ont rajouté la possibilité d'avoir des cartes souterraines pour les nains, et finalement ça apporte pas grand chose, ça apporte même strictement rien à part un niveau esthétique, quoi. Donc ça on pourrait regretter ça.
D'accord. La campagne solo est bien,
la campagne solo est très riche. On peut compter selon le niveau de difficulté, en prenant son temps, une 30-35 heures de jeu par faction.
Ah oui, quand même,
c'est quand même assez significatif. Donc voilà,
tu fais ça en un mois, toute manière.
Oui, toi tu fais ça en un mois. Ouais, c'est vrai.
Ah non, mais c'est vrai que pour le coup, contrairement à Stellaris, j'y ai pas énormément joué pendant mon temps libre. J'ai un peu été quand même un peu l'univers Warhammer, je sais que ce jeu va beaucoup plaire, mais l'univers Warhammer personnellement c'est pas forcément mon truc, donc j'ai un peu de mal avec ça, et j'attends plus leur prochain jeu qui sera axé plus sur l'histoire.
C'est Napoléon le prochain? Non, je sais plus.
Non, le prochain c'est pas annoncé encore.
Ah, c'est pas annoncé. Il y a déjà eu un Shogun,
il y a eu Shogun 1, il y a eu Medieval 1, Rome 1, ouais. Shogun 2, Empire, voilà.
Il n'y a pas eu Napoléon aussi?
Il y a eu Napoléon qui était l'extension, l'add-on plutôt de Empire.
Ah d'accord.
Donc pour l'instant, toutes les périodes ont été un peu traitées, à part le 19e siècle, et c'est vrai qu'on on sait pas encore.
Pas de SF?
Ça sera la... pas de SF, pourquoi pas finalement, puisque maintenant on a de l'Heroic Fantasy.
Ah, il va falloir qu'ils s'y mettent un moment.
Et surtout, comme vous pouvez le voir encore une fois à l'écran pour les premiums, on a aussi l'arrivée des grandes nouveautés, des unités volantes, donc ça. Des unités magiques, donc ça pourrait être laissé espérer aussi pour le futur, peut-être des avions, c'est pas vraiment...
Star Wars.
Alors Star Wars non, parce que la licence appartient à Disney, mais
Star Wars. Tu disais 19e siècle tout à l'heure, c'est ça?
Oui,
pourquoi pas.
Possiblement, les fans attendent
Warhammer la commune.
Bah, les...
Warhammer, c'est
surtout
les trois
pour les fans de Warhammer, malheureusement, j'ai l'impression que la licence Warhammer est un petit peu foutue sur tous les jeux qu'il y a. Et je crois qu'on a eu un jeu dans le style un petit peu de Left 4 Dead, je crois, il y a pas longtemps, qui n'était pas forcément si mal, mais c'est beaucoup de jeux assez médiocres en fait.
Bah,
là,
ça fait longtemps que c'est comme ça. Hein. Je le rappelle de.
Il y en a pas si mal que ça. Le Space Marines qui était sorti sur PS360, c'était.
Non, mais du côté de chez Games Workshop, il y a des bons trucs.
Non, non, si, il y a des.
Il y a Blood Bowl qui est vachement bien.
Il y a Vermintide qui est sorti il y a pas longtemps en FPS, qui est très 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 bon aussi.
J'ai deux trois petits jeux mobiles qui sont assez sympas aussi.
Ouais, sur PlayStation.
Mais c'est ça, c'est du sympathique, c'est du.
Ouais, sur PlayStation, je me rappelle de l'ombre du raccord nu qui était vraiment pas très bon. Mais
c'est vrai que pour l'instant Warhammer était habitué à la licence de Dawn of War au niveau stratégie. C'est vrai qu'arriver dans un Total War, ça détonne un peu par rapport à ce qui se faisait avant. Il y en a qui vont aimer, il y en a qui vont pas aimer. C'est pas pour cette raison que je le déconseille, au contraire, le jeu est quand même relativement bon. Je lui ai d'ailleurs mis la note de 7 sur 10, donc c'est une note très sympathique.
Pas indispensable.
C'est pas indispensable, c'est le jeu.
Qu'est-ce qui s'est passé?
J'ai vraiment puni la politique en fait du studio. J'aime pas du tout cette façon de faire, de balancer, de t'imposer presque des DLC finalement, parce que quand le multijoueur va se finir par être scindé en plusieurs parties, on va pas pouvoir vraiment lutter contre les personnes qui ont des races comme le chaos qui est réputé comme très puissant dans l'univers Warhammer. Ça risque d'être assez problématique, donc moi je punis un peu ça. Et puis c'est vrai qu'il y a des petites choses à redire au niveau de même du graphisme total du jeu. C'est un peu moins beau que Rome Total Wars 2, alors que le jeu est sorti il y a 4 ans, c'est un peu problématique. On attendait, évidemment ça va être résolu par des patchs, mais ça, Rome 2, il a quand même fallu attendre un an de patch pour que le jeu soit vraiment jouable par la majorité des joueurs. Il y avait des gens qui, même 6 mois après, qui continuaient à gueuler, dire oui ça marche pas sur ma config, même sur des configs qui étaient milieu de gamme, assez décent. Et c'est vrai que là pour Warhammer ça souffre un peu de ça. Par contre il y a des bons points et des mauvais points. Voilà, les bons points, c'est vraiment l'IA qui a été améliorée, alors là pour le coup rien à redire, parce qu'elle est beaucoup plus maligne que ce qui se faisait auparavant. Mais si, l'univers Warhammer qui est très bien traité, mais au niveau des points négatifs, on peut pas vraiment les... En fait, on s'en rend compte vraiment au bout d'une quinzaine d'heures de jeu.
À peu près 300 heures, quoi, environ.
Non, mais au bout de... Voilà, quand on a commencé vraiment bien une campagne, on se rend compte que le jeu est bien, mais ça aurait pu être mieux, quoi. Donc voilà, 7 sur 10, c'est pas une mauvaise note, ça a pas à rougir non plus, mais ça aurait pu être vraiment
mieux. C'est sorti
mieux.
Sur PC le 24 mai, c'est
PC,
ça
PC 24 mai, et vous allez pouvoir vous attendre à une somme considérable de DLC. Et voilà, c'est pour ça... Je répète, mais ça me choque. Franchement, je suis vraiment. Ça me fait presque.
J'ai l'impression que ça t'affecte là.
Parce que moi, j'ai toujours été le studio Creative Assembly. Je l'ai suivi depuis son début.
Non, mais j'ai l'impression que tu vas chialer en fait là. Mais oui. Arrête un petit peu. me fais peur.
C'était un de mes premiers jeux PC, Shogun 1. À l'époque, le jeu était complet dès le début. Il y avait un add-on qui faisait, comme pour The Witcher 3, un truc qui balançait 30 heures de jeu dans la gueule. Et là, on va trouver avec un jeu qui est scindé en 10 parties avec des DLC à tire-larigot. C'est pas vraiment.
Mais c'est la vie.
Mais c'est
comme ça, on n'y peut rien. C'est comme ça aujourd'hui, malheureusement.
Bref,
en tout cas, tu le conseilles.
Je le conseille quand même, dans tous les cas.
Et on va finir avec un petit jeu français maintenant. Un petit peu de baston, Johnny. Tu vas nous parler de Last Fight. Adaptation en jeu de baston du comics
Last
de...
Man.
Alors attends, je me rappelle des trois.
Bastien Vives.
Vives.
Balak et
Sans la ville.
Michael Sans la ville.
Exactement. Alors, ce petit jeu que j'avais eu l'occasion de voir déjà à la Paris Games Week par exemple, qui me faisait un petit peu d'œil, même si je suis pas un énorme fan de Power Stone, au jeu auquel il ressemble beaucoup, je trouvais qu'il avait. Il avait quand même une petite patte sympa, puis quand on s'y mettait à 4, c'était rigolo, quoi.
Oui, voilà. Alors, en fait, le jeu a vraiment deux gros points forts. Le premier, c'est son mode multi, que tu vas jouer à 4. Donc, c'est un jeu type Power Stone. Donc, Power Stone, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu de baston assez basique en apparence, même si celui-là a quelques petites subtilités. Dans lequel
Il a des parades, contrairement à Power Stone.
Donc,
il n'y a pas de garde dans Power Stone.
Voilà. Donc, on va parler du gameplay tout de suite. Alors,
attends, c'est le jeu à lequel j'ai joué avec toi et où j'ai galéré.
Ouais,
d'accord.
Voilà, vous savez tout, la rédac.
Donc au niveau du gameplay, c'est assez basique, c'est un pure feuille ciseau. Il y a un coup qui bat une shop, la shop qui bat la protection qui bat le coup. À côté de ça, t'as un deuxième niveau de lecture où tu vas avoir un just guard, une attaque dashée, un just, enfin voilà, t'as des petites subtilités comme ça qui viennent se rajouter, qui te rajoutent un deuxième
un
petit
Justin
niveau
Bieber,
de lecture. Non.
Je me souviens pas que c'était si compliqué pour Hearthstone.
Non, mais celui-là, est un peu plus. Voilà, donc tu peux esquiver par un dash. Si tu esquives au bon moment, tu fais un just dash. Enfin voilà, il y a quelques petites subtilités dans le gameplay qui viennent ajouter une espèce de richesse.
Il jouait pas avec un clavier en tout cas, parce que c'est d'horreur.
Ouais, donc on y a joué en multi. Voilà, donc la grosse force de ce jeu, c'est son multi à 4. C'est-à-dire que vous vous retrouvez dans des arènes assez barrées, complètement délirantes. Je voudrais revenir sur les arènes un peu plus tard parce qu'elles sont assez inégales. Donc des arènes avec des pièges dedans. Là, par exemple, là vous voyez l'avion. À l'image, le réacteur se met en route de temps en temps, aspire tous les joueurs qui passent devant, ça enlève de la vie, c'est du grand n'importe quoi, c'est du grand délire. Donc ça se joue à 4, en versus c'est des équipes de 2 contre 2, et c'est un grand bordel, un grand n'importe quoi, c'est joyeux. Il y a tout un tas d'items sur la map qu'on peut prendre, s'envoyer dans la face.
Assez barré, hein.
Ah non, mais c'est complètement barré, c'est assez jouissif quand on joue à plusieurs. C'est un peu injuste comme jeu, c'est-à-dire que les persos sont pas forcément super bien équilibrés, mais à la limite on s'en fout, on est là pour rigoler. Donc justement on se trouve sur des maps qui sont complètement délirantes avec des pièges partout, des objets qu'on peut s'envoyer dans la figure. Le gameplay est très simple en apparence, mais on peut avoir ce deuxième niveau de lecture si on veut l'approfondir un peu. Et donc le but du jeu, c'est on est avec ses potes à la maison, on se sert une bonne bière, on se met ça, allons-y, on y va à 4.
Il y a des grosses poitrines aussi, j'ai remarqué.
On va reparler un peu du chara-design et,
le chara-design est inspiré directement du comics.
Le sourire sur son visage.
C'est ça, de toute façon. Au niveau du gameplay, au niveau du fun qu'il va procurer en soirée, c'est vraiment génial. C'est fait pour ça, ça fait très bien son boulot.
Mais ça manque un peu de contenu, peut-être.
Quelques petits reproches quand même sur le gameplay, c'est-à-dire qu'au niveau des arènes, je parlais des arènes tout à l'heure. Donc il y en a, j'ai montré celle de l'avion, t'en as une autre, ça ressemble à un temple, un cadre que tu pourrais retrouver dans Uncharted, où quand t'appuies sur la tête d'une grosse statue, le plateau devient un vrai Danmaku avec des boules de feu de partout. Et ça, les stages sont assez inégaux, parce que donc ces deux stages-là, ils sont bien pourvus au niveau piège, niveau objet à se balancer dans la tête, mais il y en a d'autres, malheureusement, ils sont un peu plus basiques et ils n'ont pas bénéficié du même traitement. Bon, c'est pas très grave. Sur ce point-là, le jeu fait le boulot, il le fait bien, on s'amuse, c'est vraiment cool. Il y a un autre aspect donc qui est vraiment pas mal, c'est sa direction artistique. Donc, on l'a dit, Last Fight, c'est tiré d'une BD, Last Man, où on a un homme notamment, moi dont je retiens le nom, c'est Bastien Vivès. Bastien Vivès, pas mal de petites BD assez connues, une qui a gagné pas mal de prix, c'est Paulina. Moi, je l'avais surtout connu à l'époque avec notamment un petit tome court qui s'appelle Le Jeu Vidéo. Je conseille, c'est pas mal de vannes autour du jeu vidéo, il en a fait d'autres sur les blogs, il y a pas mal de thèmes comme ça, une collection de petites BD avec à chaque fois un thème. Le premier c'était le jeu vidéo, moi j'avais pas mal kiffé. Et donc on parlait de chara-design, en fait ce gars là il a un trait qui est assez sympathique, et notamment ses personnages féminins qui sont très simplement dessinés mais qui sont tout de même très aguicheur, faut dire ce qui est. Donc moi j'aime beaucoup le chara-design global, que ce soit même les persos masculins. Donc t'as vraiment des personnages assez barrés, genre t'as un homme poisson, t'as un danseur disco, t'as une joueuse de genre blitzball, une poison ivy, vraiment un chara-design barré, très varié, etc. Chaque perso qui va avoir son propre gameplay, etc. Et donc ça donne vraiment une patte graphique au jeu qui est très sympathique, qui est bien retransmise en 3D, parce que t'as des petites scénettes 2D aussi quand tu joues le mode histoire. Donc tout ça reste bien dans cet esprit là l'esprit de la BD, tout simplement.
D'accord. Et un petit mot sur la musique,
donc c'est 2080 qui était passé en podcast ici.
On connaît assez bien, j'espère que ça va.
Donc
cher 2080.
C'est des sons un peu rétro, mais
totalement chiptune,
mal péchu. La BO fait bien le boulot, c'est vraiment pas mal. Donc c'est sur ces points-là vraiment une franche réussite, moi. D'accord. Je trouve, sur ces deux points-là. Malheureusement, parce qu'il faut bien le dire, le jeu souffre tout de même de quelques défauts. Notamment un cruel manque de contenu. C'est-à-dire que sorti de ce mode versus à 4, on a le mode histoire avec les petites scénettes où on a le choix entre deux héros. Ça va prendre une heure à boucler. Voilà. L'IA est assez retorse d'ailleurs et du coup elle va te pousser à aller chercher les petites subtilités de gameplay pour pouvoir la battre parce que dès le premier stage en fait le jeu est dur.
D'accord.
Voilà. Bon, de toute façon l'IA tu vas pas beaucoup jouer contre elle puisque comme je l'ai dit le mode story en une heure à peu près tu l'as bouclé. Donc après l'autre truc sur lequel tu vas jouer c'est le multi en coop. Mais malheureusement sorti de ça. Il n'y a pas grand chose d'autre.
D'accord, écoute, c'est pas très grave.
On n'a pas de training.
Ça peut suffire à
surtout que ça coûte pas cher. Voilà, le but c'est d'y jouer en soirée. Mais il n'y a pas tous les à côté qu'on trouve dans un jeu de baston, ils sont pas là. C'est-à-dire, vous n'avez pas de training, vous n'avez pas de. Si, il y a un tuto rapide avec des images fixes.
Il n'y a pas un mode arcade un peu sympa?
Le mode story c'est le mode arcade, voilà, t'as 8 combats avec les petites scénettes.
Il y a que 2 héros dans le mode story, c'est bien
compris. 2 héros à choisir. T'as pas de multijoueur en ligne. Maintenant, bon, ça, comme je l'ai dit, le but c'est d'y jouer avec ses potes en buvant des canons, quoi.
D'accord.
Voilà. Donc, ce pourquoi il a été fait ce jeu, il fait
un
bien
jeu
le job.
À bière, quoi, en fait.
Ouais, c'est un jeu, c'est un party game en soirée. Voilà.
Et donc, tu lui as mis
6.
6 sur 10. 6.
J'aurais aimé lui mettre plus, mais ça manque trop de choses.
D'accord. Voilà.
T'en as trop vite fait le tour en solo. Voilà. Après, ça coûte pas cher. Donc, même si la note, elle est ce qu'elle est, c'est quand même un coup de cœur. Voilà.
D'accord. PS4, Xbox One, PC ?
PC pour l'instant. Ça devrait arriver sur PS4 et Xbox One à des dates qui n'ont pas été définies.
D'accord. Très bien.
Voilà.
Eh bien, écoute, merci. Vous le savez. Gameblog, ce n'est pas que du jeu vidéo et cette semaine, comme d'habitude, nous allons vous parler de nos hors-jeux. Nous allons faire le hors-jeu le plus rapide de l'existence. On va commencer justement avec toi, Johnny. Tu vas nous parler
d'un manga.
Alors, quel est-il ?
Alors, c'est Last Hero de Hiroya Oku. Hiroya Oku, c'est un artiste qu'on connaît notamment pour son œuvre phare qui est Gantz. C'est un manga qui a duré plus de 10 ans, qui avait très bien commencé. Je reparlerai peut-être dans un autre hors-jeu de Gantz parce que c'est une de mes grandes passions dans le manga. Un manga qui avait cassé pas mal de codes à l'époque, en fait il prenait tous les codes existants du seinen et il les détruisait, c'était un truc qu'on n'avait jamais vu à l'époque, voilà, donc ça c'est, il en a fait un peu de la merde sur la fin de cette série malheureusement et il est reparti sur un nouveau truc qui s'appelle Last Hero. Donc Last Hero c'est l'histoire du petit vieux là, le petit gars là que vous pouvez voir
si vous êtes
en image, c'est un petit vieux gars, il a une vie de merde, il a une famille de merde, il a un boulot de merde, il a une vie de merde, une maison de merde, il a un cancer, il va mourir.
Ah, okay.
Voilà, donc c'est le pauvre. Et il est déprimé et un soir il va se balader dans un parc et des extraterrestres se crachent dans ce parc et le tuent. Mais il ne le tue pas que lui, le pitch de départ c'est un peu d'une grande n'importe quoi. Il le tue lui et il tue aussi un jeune homme qui était assis à côté, un ado, 16-17 ans, voilà. Et donc là t'as une petite scène entre les extraterrestres, tu vois pas leur gueule, c'est juste du dialogue qui flotte en l'air, où ils se disent mais on peut pas les laisser mourir parce que sinon il y aurait des traces de notre passage. Donc il faut qu'on remplace leur corps.
Rassure-moi, il n'y a pas de toucher rectal.
Non.
Non, c'est pas ça, c'est pas.
Et donc, les extraterrestres se disent, mais on a que des corps de combat. C'est pas grave, on leur met les corps de combat. Donc à partir de là, vous avez pu voir sur l'image précédente, donc le petit vieux, en fait, il a un bras canon, des lance-missiles dans le dos, il peut voler, une vision bionique, c'est Iron Man puissance 10 000. Voilà. Et il va choisir, grâce à ses nouveaux pouvoirs, de faire le bien. Et à côté de ça, il a son antagoniste, le jeune ado, qui lui va complètement vriller et devenir un gros psychopathe. Donc à partir de là, on a cette espèce d'antagonisme entre les deux personnages qui va monter, avec forcément un duel final. Pour l'instant, on en est au tome 4 en Europe. J'ai pas lu les scans, je me garde le plaisir de me lire.
Heureusement que tu fais pas ça, attends.
Je me garde le plaisir de lire les tomes entiers quand ça sort en
pas
Europe.
Bien.
Ça risque d'être une histoire assez courte, je pense. Il y a pas matière à faire une série en 46 tomes.
Oh, c'est pas plus mal, l'histoire
c'est
Iron
pas plus mal.
Apparemment.
Par contre, donc Oku continue avec un peu son brisage de code, c'est-à-dire que tu as par exemple le tome 3, c'est un tome entier sur des personnages que t'as jamais vu. En gros, t'as les deux premiers tomes sur le vieux et le jeune. Tome 3, paf, on balance des nouveaux persos, une nouvelle histoire. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis bien sur le bon manga? Et en fait, si, au bout d'un moment, les histoires se rejoignent. Ça se raccorde. Et ça, c'est génial. Quand il fait ça, il l'avait déjà fait sur Gantz à l'époque. Et on retrouve sa patte graphique qui est magnifique. C'est-à-dire qu'il a déjà un trait qui est très fin. Moi, j'aime beaucoup son dessin. Pas beaucoup de pin-up dans ce manga-là, mais bon, après tout, on peut apprécier.
Oui, mais il y a d'autres plaisirs dans la vie.
Voilà. Exactement. Donc, c'est un style très particulier. À l'époque, il était un peu précurseur, c'est-à-dire qu'il faisait des modèles 3D de ses décors qui étaient ensuite passés en mode filigrane noir et blanc, et les persos sont incrustés là-dedans. Voilà.
D'accord.
Donc ça donne une patte graphique très particulière qui est très propre, en fait. C'est vraiment très 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 propre comme manga, comme graphisme. Donc que ce soit au niveau du scénar, c'est cool, l'histoire est vraiment bien. Comme je dis, il prend des chemins détournés un peu pour raconter son truc avec des un peu des codes cassés, voilà. Et voilà, c'est super
sympa. Et
c'est sympa.
Donc
moi, je
édité chez
J'ai peur de dire une connerie, je crois que c'est
chez Kiyun, non ? C'est le nombre que j'ai dû l'écrire sur l'affiche.
Ouais,
là.
Attends.
Et ça s'appelle donc Last Hero.
Last Hero. Kiyun, ouais, c'est ça.
Hiroya Oku.
Ouais.
Très bien, vous voyez, si vous êtes très bien, vous avez la couverture du premier. Juste là. Camille.
Oui,
tu vas nous parler d'un livre.
Oui, je vais vous parler de Le Prince de Machiavel.
Ah.
Eh oui.
De quoi ça parle ? Qu'est-ce que c'est ?
Eh ben, en fait, bonjour.
Qui est Machiavel ?
Évidemment, j'ai entendu beaucoup parler, puisque tous les hommes politiques, tous les hommes d'État depuis le début, depuis le Moyen Âge, en fait, depuis la Renaissance,
s'inspirent de lui.
Donc ça a été écrit en 1532, donc après sa mort, parce qu'il est mort en 1527. Ça raconte, en fait, c'est un peu un tutoriel pour être un bon prince, pour être un bon homme politique, un bon homme d'État. Et en fait, c'est toujours d'actualité. C'est ça qui est intéressant, en fait. C'est que même si, évidemment, c'est ancré dans son temps, aussi bien par les faits historiques que la manière d'écrire, eh bien, c'est tout à fait d'actualité pour des centaines de choses. En fait, il nous parle aussi bien des monarchies que des républiques, puisqu'à l'époque, l'Italie de la Renaissance était composée aussi bien de cité-État que de républiques. Et donc, en ça, c'est très moderne, puisqu'il va nous parler, par exemple, de comment diriger de façon... de la bonne manière une république, doit-on balancer entre la cruauté et la clémence. D'ailleurs, j'en suis au chapitre 17, de la cruauté à la clémence, justement, ça s'appelle comme ça, c'est le titre du chapitre 17. Et en fait, chaque chapitre, ça qui est intéressant, c'est que nous parle de comment être un bon chef d'État, et en nous donnant des conseils et en s'inspirant de l'Antiquité, parce qu'en fait, évidemment, la Renaissance italienne, tout le monde s'inspirait de ce qui se faisait, de l'Antiquité romaine et l'Antiquité grecque. Donc il prend beaucoup d'exemples dans l'histoire romaine. Donc il fait un peu des retours sans cesse, et en même temps il parle de son présent, mais il parle aussi du futur, en fait, parce que son but à terme, c'est une œuvre qui a duré toute sa vie, hein, parce qu'il a quand même mis 20 ans pour l'écrire. Son but à terme, c'est d'unifier l'Italie, en fait, parce que, comme je vous l'ai dit,
ce qui est arrivé seulement au 19e siècle.
Voilà, ce qui est arrivé seulement au 19e siècle, toi qui es notre ami italien de la rédaction.
J'y suis allé il y a deux ans, il y avait des drapeaux partout, donc voilà. Je me rappelle très bien.
Donc, c'est bien, c'est vraiment quelqu'un qui est encore d'actualité.
Tu nous parles de tutoriel politique, alors, le 49-3, ça nous donne des
réponses. Est-ce qu'il en parle dedans?
C'est vrai qu'il a été critiqué, notamment par cette notion de machiavélisme, en fait, qui est un peu biaisé depuis. En fait, utilisé à mauvais escient, je trouve, parce que en fait Machiavel n'est pas si machiavélique que ça.
Parce qu'il y a un côté malin, en fait, quand on utilise ce terme.
Un peu ce qu'on pourrait.
Alors que c'est plus du pragmatisme.
La fin justifie les moyens, c'est un peu ce qui pourrait résumer l'idée de Machiavel. Et pourtant, il y a énormément de divergences dans son esprit et dans son esprit politique. C'est pas uniquement de la violence. Il y a beaucoup de gens qui ont critiqué ça, que voilà, la fin cette citation, la fin justifie les moyens, on pourrait dire oui, du coup on envoie l'armée et puis ça résout tout. Mais non, c'est bien plus complexe que ça, et il parle vraiment de tout, aussi bien de la diplomatie que des notions militaires. Et
d'accord.
En ça, c'est vraiment vraiment très intéressant, et si vous le lisez, vous vous rendrez compte vraiment que même avec ce qui se passe en ce moment en France, on pourrait trouver des points communs, et même nos hommes politiques français, je suis intimement persuadé qu'ils l'ont lu,
mais tous,
et qu'ils s'en inspirent encore. Et c'est ça vraiment qui fait toute sa force.
C'est évident, de toute façon.
Un homme qui a traversé les siècles, qui va continuer à le traverser. Sa pensée était très moderne pour l'époque. Donc voilà, je vous le conseille vraiment fortement.
Le Prince de Machiavel. On va passer à mon
c'est
hors-jeu.
C'est pas tout jeune, évidemment.
Ah bon, et donc au hors-jeu de Rudy maintenant. Excuse-moi.
Oui, il lut le livre sur quelle année ton édition ?
Alors moi, oui, c'est une édition de 1881, parce que je suis fan de vieux livres. Donc du coup, je me suis permis de me l'acheter dans une édition du 19e siècle, parce que c'est un peu plus de charme.
Oui, puis ça t'assurera ta retraite une fois que tu seras un peu plus âgé.
Non, mais c'est vrai qu'avoir une couverture en cuir et une des belles pages, c'est plus agréable que les livres modernes où c'est pas forcément hyper bien travaillé, quoi. À part la Pléiade, mais après c'est un autre sujet.
On va passer au hors-jeu de Rudy très vite. Toi, tu vas nous parler d'une série, Rudy.
Et oui, alors, excite la politique ou excite les vieux fous avec des extraterrestres. Et c'est Vinyl, en fait, dont je vais vous parler.
Il est pas fou, le gars.
Non, mais donc, Vinyl, une super série, une superbe série, donc surtout produite par Mick Jagger et par Martin Scorsese. Et donc,
c'est pas n'importe qui.
Voilà, c'est ça. Il y a quand même du beau monde derrière. Et c'est une série en fait qui parle de l'industrie musicale dans les années 70. D'accord. Et donc on en découvre tous ces décors, tout ce qui se passe en backstage en fait, donc ce qui implique tout l'alcool, toutes les drogues dures, tout le sexe qu'il y a pu avoir aussi.
Bah, c'est ce qu'on voyait un peu dans le film presque Almost Famous par exemple.
Voilà,
c'était un journaliste qui accompagnait un groupe à la Led Zeppelin.
Exactement, sauf que là au lieu de le voir du point de vue du journaliste, on va le voir du point de vue du directeur d'un label musical.
D'accord.
Qui fait faillite. Et donc c'est comment cet homme va essayer de relancer son label et avec toutes les difficultés que ça peut impliquer. Et là,
du coup, sex, drug and rock'n'roll ou pas?
Ah, mais complètement. Oui, et surtout ce que j'ai adoré, le premier épisode dure 1h52. Mmh. Ensuite les autres épisodes durent 50 minutes, ouais. Mais on a justement 1h52 de bonheur, j'ai pas pu m'arrêter. Et donc tu vois, toi tu finis tes jeux tu fais 100 heures en un mois. Moi les 10 épisodes plutôt, je les ai regardés en 2 jours. Enfin, je les ai enchaînés, je pouvais pas m'arrêter.
BO d'époque, je suppose.
BO d'époque. Oh là là, plus que BO d'époque. Mmh. Si vous avez Spotify par exemple, il faut savoir que toutes les BO de chaque épisode sont compilées sur Spotify dans des playlists créées par HBO. Mmh. Et enfin, c'est juste magnifique. Et donc oui, BO d'époque, donc du Thin Lizzy, donc du David Bowie, enfin. Et tout ce qu'il y a avec aussi, donc t'as tout ce côté rock, aussi bien funky, soul, c'est les débuts justement, c'est excellent, c'est juste excellent.
D'accord, très bien. Et ça c'est... Comment on le voit en France ça?
Ah, OCS.
C'est OCS qui diffuse ça, d'accord.
C'est OCS qui
diffuse
ça.
Sinon c'est HBO qui diffuse.
Tu l'as sur CanalSat?
Ah, peut-être.
À la demande?
Peut-être que
je regarderai ça,
pas.
Tiens.
Mais honnêtement, je sais pas. Mais sinon, OCS en tout cas en France.
D'accord, très bien. Eh ben écoute, moi je vais aller me plonger dedans parce que j'aime beaucoup cette période
ça
aussi.
Pas mal.
On va finir avec mon hors-jeu. Ça va aller très vite puisque c'est un film qui est sorti il y a quelques mois maintenant, qui vient d'arriver ou non, qui est arrivé il y a quelques semaines peut-être en DVD Blu-ray. C'est Agent très spécial Code Uncle, qui est une espèce d'origin story d'une série que je regardais quand j'étais petit, qui est arrivée très tard en France, hein, qui s'appelle Agent très spécial, dans laquelle il y avait deux personnages. Qui sont devenus fameux, à savoir Napoléon Solo, et qui était joué par Robert Vaughn à l'époque, et il y a Kuryakin qui lui était joué par David McCallum était l'homme invisible aussi dans les années 60-70, et qui aujourd'hui joue dans NCIS, le pauvre vieux. Bref, c'est une origin story en fait sur la rencontre entre ces deux personnages, l'agent américain et l'agent russe. Ça a pas trop à voir avec l'esprit de la série d'origine, qui était beaucoup à base d'identité secrète et de masque qui se soulève à la fin, et ce genre de bêtises.
Ouais,
c'était un peu ça.
C'est
ça, hein. Là, c'est vraiment plus un film un peu plus action. Il y a évidemment une dimension espionnage qui joue énormément, hein, mais il y a beaucoup de bastons. Hein. Il y a aussi le fait que les deux mecs sont des armoires à glace tous les deux et qui sont beaux comme des dieux. C'est Henry Cavill, et que je me dise pas de bêtises, pour l'acteur qui joue Ilya Kuryakin, c'est Armie Hammer, voilà, qui jouait dans Lone Ranger. Une des raisons aussi pour lesquelles j'ai décidé de vous parler de ce film, c'est parce que j'aime bien
Guy
parce
Ritchie.
Que c'est Guy Ritchie qui l'a fait,
ouais,
que
voilà.
Guy Ritchie est capable de faire des films absolument atroces comme
après,
il est capable de faire
Revolver.
Comme il est capable de faire des super films. J'aime beaucoup Snatch, c'est un de mes films préférés. Le premier Sherlock Holmes, pas le deuxième, qui est vraiment immonde, était très bien aussi. J'ai pas vu Rock'n'Rolla ou ce genre de choses.
Rock'n'Rolla est moyen, et le plus horrible de tous, c'est Revolver.
C'est pas lui qui a fait à la dérive avec
à la dérive, oui, aussi
à la dérive avec Madonna, parce qu'il avait offert un film à sa
mais tu vois, ça m'étonne que tu choisis dans ton hors-jeu, parce que moi il m'a assez déçu en fait.
C'est vrai,
moi j'ai bien aimé, pas mal, moi
j'ai bien aimé, mais aussi
j'étais en plein hype Kingsman quand je l'ai vu.
Ah oui, voilà, parce que tu avais encore Kingsman en tête.
Bah disons que c'est un film, voilà, c'est un petit film spectaculaire, il s'est fait plaisir sur pas mal de trucs, et puis bon, je voulais en parler parce que dans ce film, il y a une actrice qui va être la prochaine Lara Croft. C'est Alicia Vikander qui a gagné l'Oscar du second rôle féminin pour The Danish Girl il n'y a pas très longtemps. Et donc cette actrice, je ne la connaissais pas. Moi, j'avais vu l'annonce sur Gameblog de « Ah bah voilà, c'est elle qui va jouer Lara Croft ». je me disais en photo, bon bah bof quoi, je sais pas, je la vois pas très bien Lara Croft. Et ben en fait elle est totalement validée, parce que effectivement c'est une très belle femme, et aussi parce que bah sa façon de jouer en tout cas dans ce film là est plutôt surprenante et plutôt douée, j'ai l'impression.
Justement,
que
elle a un rôle de femme qui se laisse pas faire.
Exactement.
Mais c'est ça qui est assez intéressant.
Ouais, et elle le fait très bien. Mmh. Et justement, elle mate pas mal le grand géorgien costaud, fier de lui.
Mais voilà, elle sait ce qu'elle veut. Et c'est elle met ce gros gaillard là. Voilà.
Elle le met par terre. On va pas trop vous en dire, mais franchement, c'est pas mal. Et puis il y a la petite fin, évidemment, avec un Hugh Jackman qui apparaît un petit peu par magie, qui fonde un petit peu ce qui va être la série Agents très spéciaux. Moi, ça m'a beaucoup plu. Voilà, je veux pas dire que c'est le film du siècle non plus, mais en tout cas ça fait plaisir. J'aimerais bien qu'il y ait une petite suite. Voilà. Oui, non, mais voilà, c'est pas fou non plus. Bref,
non, c'était plus que pas mal, moi j'avais trouvé. Hein. Ouais. J'avais vraiment bien aimé.
J'ai bien aimé aussi, mais bon. Bref, tout ça c'était pour nos hors-jeux. Merci Camille, Rudy et Johnny pour les hors-jeux. Et j'ai envie de dire merci pour le podcast tout court, n'est-ce pas, hein, pour ces jeux qu'on vous a décortiqués pendant cette heure de podcast, à peu près une heure, un peu plus même. Hein.
Ouais,
merci
en
encore une fois Johnny One, merci Camille, merci Rudy, évidemment, pour tous vos avis éclairés sur les jeux dont nous avons parlé. Merci à vous, évidemment, aussi de nous avoir suivis. Hein. Je rappelle évidemment que juste en dessous de nous, il y a des commentaires, n'hésitez pas. Postez vos avis, postez vos commentaires sur tout ce que nous avons dit au cours de ce podcast, parce qu'il y a des choses qui vous ont choqué, peut-être, je ne sais pas, mais n'hésitez pas en tout cas à nous en faire part. Et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre podcast de la rédaction. D'ici là, portez-vous bien et surtout jouez bien. Ciao
ciao ciao,
ciao.